Jesus Christus.
Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant visés par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, le premier ministre israélien et son ancien ministre de la Défense sont soupçonnés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le patrimoine chrétien du Haut-Karabakh menacé depuis que l'Azerbaïdjan a pris le contrôle de la région, un prêtre arménien invité à la nuit des témoins organisée par aide à l'église en détresse, nous confiera qu'effacer le patrimoine, c'est effacer la mémoire d'un peuple. Le pape publie une lettre sur le renouvellement de l'étude de l'histoire. Il exhorte chacun à peaufiner ses sensibilités historiques dans un monde contemporain où défèrent les mémoires fausses, artificielles ou mensongères. Et puis journée mondiale de la pêche, nous verrons comment la préoccupation pour l'environnement est au cœur des activités des pêcheurs à Manille.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonsoir. La Cour pénale internationale a donc émis aujourd'hui 3 mandats d'arrêt pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Un contre Mohamed Def, le chef palestinien des brigades Al-Qassam, et 2 contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. Des mandats dénoncés par le chef du gouvernement israélien comme antisémites, alors que de son côté, le chef de la diplomatie européenne souligne qu'ils sont contraignants et doivent être appliqués. Le processus avait lui commencé il y a 6 mois à Bruxelles, Pierre Benazé.
Depuis 6 mois, les juges de la Cour pénale internationale examinaient les recours israéliens contre la demande de mandat déposée le 20 mai dernier par le procureur. Israël ne reconnaît pas la compétence de la CPI. L'État hébreu n'a pas signé le statut de Rome, le texte qui institue la Cour pénale internationale. Les juges affirment que la CPI est compétente pour 2 raisons. D'abord, car la Palestine est sous sa juridiction depuis qu'elle a adhéré en 2015 au statut de Rome. Et ensuite, parce que le conflit en cours est considéré comme un conflit international, entre autres parce qu'Israël occupe une partie de la Palestine. Ce dernier point entraîne aussi l'application de la Convention de Genève de 1949 sur le droit international humanitaire. Les juges ont donc accédé à la requête du procureur et émis les mandats d'arrêt. Ils sont classés secrets afin de protéger les témoins et de sauvegarder la conduite des enquêtes, affirme le tribunal. Mais il a décidé qu'une partie des accusations pouvait être publié car des faits similaires à ceux que couvrent les mandats sont toujours en cours. Le tribunal, selon sa formule, a trouvé des motifs raisonnables de croire que Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant portent une responsabilité pénale pour 2 crimes de guerre, à savoir diriger une attaque contre la population civile et de faire la famine une méthode de guerre, et pour plusieurs crimes contre l'humanité, comme meurtre ou persécution. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
Et sans surprise, les États-Unis, principal allié d'Israël, rejettent catégoriquement la décision de la CPI. Pour Washington, la Cour n'est pas compétente juridiquement dans cette affaire. L'autorité palestinienne estime, elle, que ces mandats sont un signe d'espoir. Les déboires de Benjamin Netanyahou n'empêchent pas l'armée israélienne de poursuivre ses bombardements de la banlieue sud de Beyrouth, mais aussi de la plaine de la Beka, où 22 personnes ont été tuées aujourd'hui, selon un dernier bilan. Quotidien meurtrier également dans la bande de Gaza, où une frappe israélienne a tué la nuit dernière, 22 personnes dans une maison d'un quartier de Gazaville. Une autre, survenue vers minuit, a elle touché la zone de Betlaya et Jabalia, toujours dans le nord du territoire palestinien. Il y aurait là des dizaines de morts et de disparus, selon des sources locales. Autre conflit, celui en Ukraine, avec cette question qui préoccupe les chancelleries et les états-majors occidentaux. La Russie a-t-elle lancé un missile balistique sur le territoire ukrainien? C'est ce qu'affirme Kiev. Washington semble pencher pour un tir de missile expérimental de moyenne portée. Moscou, lui, n'a pas démenti. L'utilisation d'un missile balistique, normalement réservé aux armes nucléaires, constituerait en tout cas une escalade sans précédent dans cette guerre. Notre-Dame de Paris, illuminée en rouge à l'occasion de la nuit des témoins organisée par l'AED, l'aide à l'église en détresse. La 15e semaine de veillée de prière pour les chrétiens persécutés se déroule en ce moment en France avec des témoignages exceptionnels dont celui du père Amazab Keshishian, prêtre mékhitariste arménien. Il nous partage son inquiétude pour le patrimoine religieux dans le Haut-Karabakh, l'Atstar en arménien, des églises, des monastères ou des cimetières laissés aux mains de l'Azerbaïdjan depuis septembre 2023. Effacer le patrimoine, c'est effacer la mémoire d'un peuple, confie-t-il.
Notre souhait de ces jours, que nos monuments sacrés se préservent parce que, comme vous savez bien, l'Azerbaïdjan est en train de détruire nos monuments sacrés, nos églises, nos hachkar, les pierres croix typiques arméniennes qui symbolisent l'arbre de la vie, sans le Christ que le symbole de la résurrection. Quelques-uns même sont de plus de 1000 ans d'histoire. Plusieurs sont même sous la protection de l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité. Mais comme on sait malheureusement, quelques églises ont été déjà détruites, comme celle de Chouchi, de l'Ascension de la Chine et Saint-Jean-Baptiste ont été détruites et autres sont en péril d'être détruites. Ça, pour nous, c'est une préoccupation très grande. C'est la première fois dans toute l'histoire d'Artsakh que toute la population laisse la terre de leurs ancêtres.
Des propos recueillis par Marine Henriot. Changement à la tête du gouvernement au Mali après avoir limogé hier soir le civil Choguel Kokkala Maïga. La junte a nommé cet après-midi le général Abdoulaye Maïga, jusqu'alors porte-parole de l'exécutif. Un nouveau gradé donc, alors que le général Goïta, le chef de la junte, la nuit, toujours pas donné d'indication sur la remise du pouvoir au civil. Quelques mois après avoir signé une lettre sur la littérature, c'est désormais à l'histoire que le pape se consacre dans une lettre publiée ce jeudi. Dans ce texte dense, l'évêque de Rome pointe l'urgence, en particulier pour les étudiants en théologie, d'approfondir une véritable sensibilité historique et exhorte à se défaire des déformations idéologiques portées notamment par les réseaux sociaux. Une invitation à redécouvrir les racines de l'histoire de l'Église pour qu'elle comprenne mieux son rapport au monde contemporain. Les précisions d'Olivier Bonnet.
C'est d'abord un plaidoyer pour l'histoire avec un grand H que développe le Saint-Père dans cette lettre. Personne ne peut vraiment savoir qui il est et ce qu'il entend être demain sans nourrir le lien qui l'unit aux générations qui l'ont précédé, rappelle-t-il. Le pape exhorte à redécouvrir dans l'Église, et pour les futurs prêtres en particulier, une sensibilité historique. L'importance de nous relier à l'histoire doit être réaffirmée en redécouvrant quel type d'histoire nous privilégions. Pour le Saint-Père, la nécessité d'une plus grande sensibilité historique est plus urgente à une époque où se développe une tendance à vouloir se passer de la mémoire ou à en construire une adaptée aux exigences des idéologies dominantes. Dans sa lettre, le pape dresse ainsi une série de suggestions et de mises en garde. Lutter contre le développement de mémoires souvent fausses, artificielles, voire mensongères, note-t-il, et de critiquer avec vigueur les histoires préfabriquées, soigneusement et secrètement, qui servent à construire des mémoires ad hoc, des mémoires identitaires et des mémoires d'exclusion. Le pape exhorte aussi à se méfier des récits historiques portés par les médias ou les réseaux sociaux, dont le risque, écrit-il, est de nous exposer à la poussée irrationnelle de la colère ou de l'émotion. Dans sa lettre, le Saint-Père rappelle aussi que cultiver l'histoire de l'Église aide à retrouver son expérience du martyr et que l'Église peut apprendre de ses souffrances qui sont aussi sa fécondité. C'est précisément là où l'Église n'a pas triomphé aux yeux du monde qu'elle a atteint sa plus grande beauté, écrit-il.
Olivier Bonnel, la journée mondiale de la pêche réunie au Brésil, des petits pêcheurs du monde entier participent à leur 8e forum international pour défendre leurs droits et ceux des communautés qui dépendent de cette activité. L'objectif est aussi de protéger les écosystèmes. Aux Philippines, par exemple, l'association Pangisda se bat depuis une trentaine d'années pour préserver la baie de Manille. Jean-Benoît Harel.
Autrefois bordés de cocotiers, les 190 km de la côte de la baie de Manille sont aujourd'hui à plus de 90% urbanisés. Mais dans cette mégalopole très dense de 16 millions d'habitants, le gouvernement veut aller plus loin et construire des îles, comme l'explique Pablo Rosales, président de Pangisda, une association de petits pêcheurs.
L'objectif est de convertir près de 26 000 hectares de la baie, de la zone de pêche, pour les assainir, les transformer en terre et mettre en place des infrastructures nécessaires pour faire du business à l'étranger et aux Philippines.
Cette expansion met en danger les 100 000 pêcheurs qui travaillent quotidiennement dans la baie, mais également leurs familles et les millions de personnes qui vivent de cette activité. Un danger que n'entend pas le gouvernement philippin, selon ses associations, qui continue d'urbaniser la baie de Manille au mépris de la survie des pêcheurs, mais également des conséquences environnementales. Les pêcheurs tentent désormais de faire entendre leur voix à l'international.
Notre organisation a rejoint l'Organisation internationale des pêcheurs car nous pensons que le problème de la pêche aux Philippines ne peut pas être résolu uniquement par les pêcheurs philippins. Nous devons résoudre ces questions au niveau international car le gouvernement philippin ne nous écoute pas.
L'homme de 60 ans a conscience de l'importance d'éduquer les jeunes pêcheurs à la lutte collective pour défendre leurs droits, surtout qu'il anticipe déjà que cette course à l'urbanisation se poursuivra en raison de la montée des eaux d'environ 1,5 cm par an aux Philippines.
Voilà Un sujet signé Jean-Benoît Harel. C'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin, 8h30, heure de Rome. D'ici là, toutes et à tous, une excellente soirée.